jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Alors bienvenue dans le deuxième épisode de 40 Nuances de Next, le podcast dédié à Teddy Pellerin, le cofondateur de Itch. Son premier épisode, on a parlé du business, maintenant on va parler de l'homme. Et peut-être pour commencer, toujours avec mon irremplaçable compère Thomas Benzazan, Teddy, j'aurais envie de te demander si tu avais toujours rêvé d'être entrepreneur quand tu étais petit.
Pas du tout, non, je ne m'étais jamais posé la question.
Donc c'est arrivé sur le chemin.
Ça change des storytelling qu'on entend parfois.
Ouais, non, mais c'est arrivé hyper tard. Je pense que je venais... mon père était... avait peur de... Bon, c'est compliqué. Là, on va rentrer dans les trucs perso, là. Mince.
Mais on aime bien. On aime bien. C'est okay.
Alors,
quels sont tes drivers
voilà,
de vie,
ouais. Moi, mes parents ont pas fait de grandes études. Ils ont pas le bac. Ma mère a travaillé toujours en crèche. Et mon père, lui, par contre, a bien travaillé. Et à la fin, était grosso modo comme un ingénieur. Je pense qu'il avait peur d'être au chômage. C'était quelque chose qui l'angoissait beaucoup. Et donc, il nous a souvent dit, étant petit, essayer aussi de voir ce qui pourrait finalement être plus rassurant. Donc, moi, il voulait que je sois prof de maths parce que j'ai deux frères et j'étais celui qui était plutôt bon à l'école. Donc, moi, je suis allé en prépa un peu par hasard parce que des profs m'ont dit, mais si tu veux être prof de maths, va en prépa. Comme ça, après, tu seras meilleur, tu retourneras en fac et tu seras meilleur que les autres. Donc, j'ai fait ça. Et puis, à la fin de la prépa, j'étais admissible à l'ENS Cachan, donc ce qui aurait pu permettre de devenir prof relativement facilement. Et finalement, là, j'ai un peu grandi et je me suis dit, OK, si je deviens prof, je vais pouvoir à peu près imaginer ma vie dans les 40 prochaines années, ce que je n'avais pas du tout envie de faire. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire et d'aller en école. Mais disons que je n'avais pas une aversion au
risque. Le besoin d'avoir des options de vie ?
Ouais, c'est ça, c'est de se dire, je ne connais pas ma vie, quoi. Je n'ai juste pas envie de pouvoir déjà la tracer. Donc, j'ai fait une école d'ingé qui s'appelle Supélec. Et en sortant de Supélec, donc j'avais le profil pour aller chez des EDF ou des trucs comme ça, quoi, un vrai bon Supélec. Et est-ce que j'étais en option énergie? Et j'ai choisi d'aller dans une petite start-up du solaire, dans l'énergie photovoltaïque. Et j'ai fait ça pendant 3 ans en faisant 2-3 boîtes, parce qu'en fait, c'était le truc qui me semblait le plus marrant à l'époque. Je me suis dit, probablement me faire un peu chier chez EDF. Là, ça va être marrant, a priori.
Des opportunités, plein de choses à faire.
Voilà, ça va être dynamique, ça va être sympa. Et du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans, c'était très sympa. Et ensuite, j'ai décidé d'arrêter et j'ai rejoint Mounia, qui est une copine d'école, une de mes meilleures potes, qui avait créé un équivalent de Groupon au Maroc. Et au début, je me suis dit, juste je fais une pause dans le boulot. Donc, je viens de voir 2-3 mois. Et puis, quand j'étais là-bas en vacances, j'ai commencé à l'aider. Puis après, elle a commencé à me dire, mais si tu veux, tu peux rester. Finalement, je suis resté quasiment 2 ans au Maroc, où je l'ai aidé à monter le business. Ce qui fait que je suis venu un peu dans la tech. Et là, j'étais encore un peu plus proche de l'entrepreneuriat. Et donc, quand je suis rentré en France, j'ai même commencé, moi, à passer des entretiens. J'avais pas du tout en tête de monter une boîte. Mais des potes m'ont dit, ouais, mais tu sais, les modèles de type Airbnb, ça commence à bien fonctionner, tu voudrais pas regarder ça et tout ça. Donc, j'ai commencé à regarder. Et puis, en même temps, le dernier entretien que j'ai passé, le mec, très sympa, d'ailleurs, par ailleurs, me dit, moi, j'aimerais bien te recruter, mais je pense que si je te recrute, dans 3 mois, t'es parti. Et j'ai dit, ah bon, pourquoi ? Il dit, mais franchement, t'as besoin de beaucoup plus de liberté que ce qu'on peut t'apporter, quoi. Et donc là, j'ai commencé à me dire, peut-être que finalement, créer une boîte n'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais c'est vraiment venu comme ça et par hasard.
Et du coup, l'idée ?
Et l'idée, donc c'est des potes qui voulaient faire un Airbnb de la nourriture, donc pouvoir aller manger chez l'habitant.
Et c'est devenu Itch.
Et c'est devenu Itch, voilà. Et vu que moi, j'étais dispo et que j'avais un peu d'expérience dans la tech, ils m'ont demandé si je voulais le faire avec eux. Et je leur ai dit, moi, si on doit faire un équivalent de Airbnb, OK, mais on ne va pas le faire sur la nourriture parce que je ne vois pas du tout le marché. On va le faire sur la mobilité, courte distance. Parce que là, en fait, en vrai, Itch, la première version, c'est vraiment un truc qui mélange 3 phénomènes à l'époque que sont l'arrivée des plateformes. Il y avait déjà Uber, donc tu vois que tu peux commander un chauffeur en 2 clics. L'économie du partage, donc se dire, on va pouvoir le faire avec des particuliers. Et ça a l'air, c'est vraiment le sommet de la hype de l'économie du partage 2013. Tu penses que tout va être disrupté par des particuliers qui vont faire ça un peu de temps en temps. Et le renouveau de la nuit parisienne. Où 2010, etc., on est dans le creux. Et à partir de 2011, surtout 2012, tu as un peu cette nouvelle vague électro. C'est un peu, voilà, Paris devient pas le nouveau Berlin, mais il y a un peu cette vague berlinoise qui débarque à Paris avec pas mal de soirées en banlieue, etc. Et avec Mathieu, nous, on allait beaucoup dans ces soirées-là, on aimait bien. Et donc des problèmes de mobilité qui sont énormes, parce que tu es en banlieue, tu n'as vraiment rien pour revenir. Donc quand tu prends les trois, économie du partage, plateforme et mobilité nocturne, enfin la soirée, tu mélanges un peu, tu as le hitch assez facilement.
Je reste juste sur cette histoire de Airbnb, de la nourriture. Mmh. On partageait des sandwichs, je te donne la moitié de ma tomate.
Non, c'est que tu vas manger chez l'habitant, donc tu as okay, un cuistot.
Très clair, voilà, très clair.
Tu fais un restaurant à domicile.
Oui, il y a eu deux, trois boîtes qui
mais
sont
lancées. Mais il y en a eu pas mal, ouais. Mais moi, je croyais pas trop marcher. Je sais pas s'il y en a qui ont réussi. C'est, à mon avis, assez compliqué.
On en entend moins parler, en tout cas. Mmh. Mais ils n'ont pas de procès.
Mais ils ont... s'ils n'ont pas assez grossi, sinon ils les auraient eu, je pense.
On va s'intéresser aussi, comme on reste un peu dans la partie perso aussi sur le business, on allait chercher des proches à toi. Je te proposerai de nous dire qui ils sont s'ils ne se présentent pas. Et l'idée, c'est de parler de la suite ou des vies autres que tu aurais pu vivre.
Vous avez un message.
Salut Teddy, c'est François Dalven. Écoute, ça m'intéressait de savoir, au regard des particularités de l'histoire de Hitch, de son modèle, de son secteur, on sait d'où on vient, on sait à quel point on s'est éclaté, à quel point ça a été dur aussi, et on voit les challenges qu'on a aujourd'hui et les opportunités qu'on va aller chercher. Si jamais tu devais repartir sur un nouveau projet entrepreneurial dans quelques années, c'est quoi les grandes caractéristiques que tu voudrais voir dans ce nouveau projet entrepreneurial, et à quel point c'est des caractéristiques qu'on retrouve chez Hitch ou au contraire qui sont très différentes de celle de Hitch. Je trouve ça intéressant, tu vois, avec le recul maintenant, ça fait 7-8 ans que vous travaillez sur ce projet, d'avoir une analyse un peu introspective sur ce thème-là.
Je précise peut-être juste avant de répondre que François Dalven, c'est pas son nom avec une particule, c'est oui. Le fonds d'investissement. Parce qu'on adresse parfois un public large où tous les fonds d'investissement n'ont pas forcément une marque à forte notoriété.
C'est une très bonne précision. Je pense la caractéristique qui serait encore présente, c'est le fait de faire du B2C. Mais ça, je l'ai toujours eu. Moi, si je crée une boîte, alors en plus, on l'a dit en intro ou dans le précédent épisode, que les boîtes du Next 40 sont souvent des SaaS, parce que c'est probablement très intéressant pour gagner de l'argent. Mais moi, j'ai envie de toucher les gens et j'ai envie que ce soit concret.
T'as envie quand tu vas en soirée qu'on te dise. Ah mais oui, je connais.
J'ai envie que quand tu rencontres quelqu'un, il puisse être un client potentiel. Ça, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Ouais. Et j'ai envie que ça puisse toucher tout le monde. Donc en plus, pas du B2C niche, quoi, du B2C assez large. Après, c'est des marchés durs. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Mais je pense que si je retournais sur un projet, ce serait quand même quelque chose que je chercherais encore, avec aussi un impact quand même positif. Voilà, un truc où tu sens que t'améliores un certain nombre de choses, en tout cas, t'essayes, quoi.
Faut on va aller un peu plus loin dans le sujet avec cette question d'une personne dont tu viens de nous parler.
Vous avez un message.
Salut Teddy, ma question pour toi, qu'est-ce que tu aimerais accomplir après Hitch ?
Alors, ça, on peut sortir du business.
C'est
hein.
Mounia, donc, qui est une de mes meilleures copines avec qui j'étais au Maroc.
Celle qui a lancé le Groupon marocain.
Exactement, le Groupon marocain. Donc, je ne sais pas, je ne me projette pas tant que ça sur l'après-Hitch. Hein, parce que, si tu commences à imaginer la suite, au bout d'un moment, tu es peut-être moins dans le projet aussi. Néanmoins, je pense quand même que je ferai une petite pause. Donc, je vais essayer de prendre quelques mois off. Et il est probable qu'on me retrouve sur des projets quand même différents. C'est possible que je fasse complètement autre chose et que je ne relance pas de boîte tech, quoi. Voilà. On verra.
Un resto ?
Non, j'ai un projet qui est... j'ai un projet qui est... Mais qui est une blague. Parce qu'on m'a souvent demandé qu'est-ce que tu feras après Hitch. Et je pense que si jamais Hitch fonctionne bien et qu'un jour on vend la boîte et que je gagne de l'argent, je ne suis pas sûr que l'argent apporte le bonheur. Je suis même plutôt convaincu de l'inverse. Mais c'est toujours facile de dire ça quand on a. Parce que forcément, tu n'as pas de problème. Donc, c'est plutôt simple de dire ça quand on a.
En tout cas, tu n'as pas ce problème d'argent.
Tu n'as pas ce problème d'argent. Mais je pense que tu as souvent peur de perdre de l'argent. Surtout si tu es devenu riche, c'est compliqué. Et du coup, j'ai souvent dit, moi, je vais tout reclaquer, tout redépenser. Comme ça, j'aurai plus de problème. Et donc, c'est parti en mode blague qui était de racheter un club de foot. Donc, si j'ai de l'argent, dépendamment de combien j'ai d'argent, on verra qui peut je racheter.
Ça dépendra le club de foot, quoi.
Ça dépendra le club de foot. Donc, pour l'instant, je vise le Red Star, mais...
Apparemment, le football, c'est effectivement un bon moyen de perdre de l'argent, vraisemblablement.
C'est un très bon moyen
de vivre une passion en perdant de l'argent.
Tu mets tout et tu sais que tu le reverras jamais, c'est pas très très grave. Donc, le projet, c'est vrai, c'est le projet que je dis à mes potes, c'est de racheter le Red Star. Donc, Michael Haddad, président du Red Star, est au courant. Je lui ai déjà dit, mais bon, on verra si ça se fait.
Au-delà de ça, je trouvais intéressant aussi dans la question de Mounia de parler d'accomplissement. À quel moment, et alors c'est peut-être déjà le cas, mais à quel moment tu te diras j'ai accompli ce que j'avais à accomplir, à la fois professionnellement et personnellement. Et je pousse la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore en cours que tu aimerais accomplir dans ta vie ?
Professionnellement, c'est compliqué. Hein, parce que professionnellement, moi, au début de Hitch, je me disais, oh, le jour où on a 100 chauffeurs, t'imagines, il y aura 100 chauffeurs en même temps, t'en as dans chaque arrondissement de Paris. Après, bon, c'est arrivé. J'étais là, je dis, oh, t'imagines, le jour où on sera sur plusieurs villes, c'est un truc de ouf. Parce qu'à Paris, c'est simple de le faire, c'est là où on est. Tu vois. Bon, c'est arrivé, j'étais là sur plusieurs pays, j'étais là sur plusieurs continents. Donc je pense
que
il reste d'autres continents sur lesquels on n'est pas allé, on n'est pas leader en France, voilà. Donc aujourd'hui je me dis si un jour j'arrive à battre Uber en France, c'est quand même vraiment vraiment pas mal, c'est assez sport. Je sais pas si j'y arriverai, ça semble quand même compliqué, mais si on y arrive, est-ce que je me dirais ça y est, j'ai accompli quelque chose, ou est-ce que je me dirais je peux faire plus, je sais pas.
En fait, ça s'arrête jamais.
Ça s'arrête rarement à mon avis. Je sais pas, peut-être au bout d'un moment t'en as marre et tu voilà.
Non, je disais qu'à partir du moment où Jeff Bezos et Elon Musk commencent à se lancer dans le tourisme spatial, on peut imaginer le covoiturage spatial. Donc, ça, c'est une ouverture.
Voilà. Donc, non, peut-être au bout d'un moment, tu te dis, en fait, tu n'as plus envie de ça parce que tu as envie de retrouver de la liberté. Parce qu'on te dit souvent, créer une boîte pour être libre. C'est ce qu'on m'avait dit. C'est complètement l'inverse.
Hein. En fait, tu as d'autres contraintes. Ouais.
Voilà, tu as des employés, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Tu es bien quand même cadenassé. Donc, peut-être qu'au bout d'un moment, tes envies changent et là, tu te dis, voilà, c'est pas que tu as accompli quelque chose, mais c'est que tu as envie de quelque chose de différent. Mais d'un point de vue professionnel, en tout cas, j'ai l'impression que je pourrais toujours avoir l'ambition d'aller plus loin.
S'inspirer. Respirer.
Alors voilà une nouvelle petite rubrique qu'on aime bien avec Thomas, c'est de comprendre aussi quand un entrepreneur est aussi pris par ses sujets, on ressent la passion à la fois dans les mots que tu choisis, dans l'intonation et toute l'énergie que tu mets dans Hitch. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu arrives à avoir aussi une vie équilibrée et qu'est-ce que tu peux partager avec peut-être des futures vocations d'entrepreneurs qui nous écoutent autour de comment trouver cet équilibre peut-être intellectuel, sportif, culturel, familial ou autre. Qui te permet de régénérer ton énergie en permanence.
Ouais, je ne sais pas si je suis le meilleur entrepreneur pour parler de ce sujet. Premier truc que je fais en me réveillant, c'est regarder le nombre de trajets de la veille. Donc, c'est vraiment le premier truc. Quoi. Donc, voilà. Après, j'ai pas.
Et ça va influer, pardon, sur la bonhomie de ta journée.
Ça peut. Disons que quand je sens que c'est des semaines où ça se passe bien, je regarde vraiment souvent. Quand je sens que c'est des semaines où je peux pas avoir trop d'impact et ça se passe un peu moins bien, j'ai tendance à moins regarder parce que sinon je sais que ça va me prendre la tête et c'est pas bon. J'ai pas non plus l'impression de bosser. Enfin, je bosse bien entendu, mais j'ai jamais eu l'impression de faire que ça. J'ai toujours eu l'impression d'avoir une vie relativement équilibrée. Peut-être que certaines personnes diront que c'était pas le cas, mais en tout cas, moi j'étais heureux, quoi. Donc oui, je bosse beaucoup. À côté de ça, j'ai un très bon groupe de potes. Je sortais pas mal. C'est un peu moins vrai en ce moment.
Dans les fêtes électro.
Dans les fêtes électro, ça j'en ai fait beaucoup. Ouais. Au début de Hitch, on a vu qu'on bossait tous les vendredis, samedis soirs de minuit à 6h du matin. Là, c'était peut-être un peu plus dur physiquement, mais c'est le début. T'as de l'adrénaline, t'es content, tu vois que ça grossit. Donc voilà, moi je. Oui, chacun doit trouver son équilibre. On n'a pas tous la même capacité de travail, de concentration. Et en vrai, plus tu fais des pauses... Ah, voilà, peut-être le truc le plus important, c'est de prendre des vacances où tu coupes vraiment. Non pas parce que ça te permet de retrouver de l'énergie, ce qui est très bien aussi, mais parce que quand tu reviens, tu as un regard neuf et tu es bien meilleur. Et en vrai, il faut réussir à faire des pauses parce que derrière, tu es juste meilleur dans le business, quoi. Et donc ça, c'est important. Après, si tu fais des grosses semaines et que tu aimes bien, bon, écoute, c'est la vie, hein.
Longues vacances, vacances courtes mais plus régulières.
Alors moi, je fais pas de longues vacances de un mois non plus, mais j'ai quand même souvent des petites vacances, ouais. Voilà, je fais des longs week-ends ou des vacances une semaine, deux semaines. Voilà, ça m'arrive quand même, ouais. Je prends mes cinq semaines par an, il y a pas de souci.
Est-ce que l'entrepreneur que tu es arrive à se déconnecter parfois ou du coup même en vacances tu continues de regarder tous les trajets le matin et tu réponds aux emails et tu et tu suis l'activité?
Oh, ça dépend des vacances. Si c'est des vacances un peu tranquilles, je regarde tous les matins et je réponds aux mails importants. Après, ça m'est déjà arrivé de couper complètement parce que t'es à l'étranger, t'as pas forcément Internet, etc., etc. Donc, les deux me gênent pas.
C'est une belle manière aussi de se rendre compte qu'on n'est pas entièrement indispensable.
Oui, oui, je me sens pas du tout stressé de partir. Enfin, il va rien se passer de grave. Et si vraiment il se passe quelque chose de grave, quelqu'un va m'appeler, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, après, chacun doit trouver son équilibre. Par exemple, moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est le téléphone. Le téléphone me prend la tête. Mon téléphone est toujours en silencieux. Mais alors, 24 heures sur 24. Donc, tu peux globalement pas trop m'appeler. Ou alors, je vois le numéro et je décide de répondre et je le rappelle derrière. Mais c'est un truc où ça m'aide à me sentir plus équilibré. Donc, chacun a ses petits trucs. Alors, il y en a, ça va être de faire des longues pauses. Il y en a, ça va être d'avoir... je commence à 9 heures, je finis tous les soirs à 19 heures parce que, ou à 18 heures parce que j'ai un enfant et j'ai envie d'aller le voir, etc. Donc, ça dépend de là où tu en es dans ta vie. Enfin, il y a pas... Chacun s'adapte, quoi.
Et est-ce que en tant qu'entrepreneur, tu estimes que tu as progressé en fait en termes de management, d'organisation de ta vie, d'équilibre, etc. Et est-ce que tu penses que du coup, t'as effectivement réussi à trouver finalement l'organisation idéale, ou est-ce que tu vois des zones d'amélioration que tu peux partager avec nous, est-ce sur la capacité peut-être à déléguer, ou est-ce que au contraire, il y a des tu vois des secteurs ou des choses que t'as plus envie de faire?
Ouais, alors bon, j'espère quand même avoir progressé, et je pense, parce que sinon c'est compliqué en 8 ans. Non, sur le côté pro-perso, il y a un truc qui est vrai, c'est que je me suis rendu compte que dans le bouquin The Hard Things, About Hard Things de Ben Horowitz, où il explique que l'un de ses investisseurs lui dit que c'est le meilleur entrepreneur qu'il a jamais rencontré, parce qu'il est à la fois très bon en période de crise et très bon en période de paix. Moi, je pense... voilà, sans toute modestie, voilà, mais je pense être quand même très bon en période de crise. Par contre, je ne pense pas être particulièrement bon en période de paix.
Dans le livre de Ben Horowitz, écoute, ça me fait penser à une question.
Vous avez un message.
Salut Teddy. Alors, tu m'as toujours dit que tu détestais les livres d'entrepreneurs parce que c'était toujours très long, ça faisait 200 pages, alors qu'en fait, ça pouvait tenir en 20 pages. Donc, ma question pour toi, elle est très simple. À quand le prochain livre de Teddy Pellerin?
Merci Mathieu, Jacob, mon associé. Non, mais c'est vrai que... parce qu'en fait, j'ai écrit deux bouquins que j'ai auto-publiés. C'est pour ça qu'il dit à quand le prochain, qui sont un peu des trucs blagues où je raconte...
Roman
des...
ou perso bio
Alors, il y en a un, c'est plutôt perso bio, où l'objectif, j'avais 25 ans et j'ai raconté toutes les anecdotes, en gros, de 20 à 25 ans, en mode, je suis quelqu'un qui prend jamais de photos, qui écrit pas de journal, etc. Je garde pas de souvenirs.
J'ai quand même une vie.
J'ai quand même une vie. Et en fait, je n'ai pas confiance en mon cerveau et ma mémoire. Donc, je sens que ma mémoire va transformer, l'être que je suis. Donc, au bout d'un moment, je vais me souvenir de ma jeunesse de manière biaisée. Donc, j'ai envie de la poser, pour me dire, OK, j'étais un jeune con. Très bien. Mais tu vas devenir un vieux con. Donc, souviens-toi comment t'étais et pourquoi t'étais comme ça. Donc voilà, et j'en ai fait un autre qui est plutôt une grosse nouvelle imaginée, mais qui était, à chaque fois, il y avait 50 ou 100 personnes qui l'ont lu, il n'y a rien de... Voilà, mais ça m'a amusé quand j'étais entre deux projets de faire ça. Et effectivement, Hitch se prête plutôt bien à une histoire d'entrepreneur, parce qu'il y a quand même pas mal de bas et quelques hauts, donc c'est souvent plus simple à raconter. Et c'est vrai que souvent, les romans, enfin les bouquins d'entrepreneurs, j'adore le passage...
Ça manque de bas.
En fait, non, j'adore le passage où tu racontes l'histoire de la boîte. Là, je suis à fond, je suis à bloc et j'adore ça. Par contre, le début où tu nous expliques pourquoi toute ta vie, c'était évident que tu allais devenir entrepreneur, ça me saoule. Et la fin où tu commences à donner des conseils, ce qu'il faut faire quand tu es entrepreneur, ça me saoule. Moi, je veux l'histoire de la boîte, quoi. Et ça, j'aime bien. Je pense que peut-être un jour, je le ferai sur Itch. J'avais commencé à le faire et effectivement, je le ferai, mais peut-être plus à la fin de l'histoire, quoi.
Et maintenant, les conseils de... on va passer à la claque.
Wow. La rubrique de la claque, c'est aussi l'idée que les entrepreneurs, forcément sur la route pavée du succès, rencontrent aussi des échecs. Alors, tu as traversé des crises particulièrement violentes. On a parlé dans le premier épisode de ton podcast 40 nuances de Next, de l'aspect juridique, de la crise Covid. Mais est-ce qu'il y a des claques plus peut-être perso, que ce soit perso au sens entrepreneurial ou plus perso, qui t'ont appris des choses et qui t'ont permis de te relever, que tu accepterais de partager avec nos auditeurs?
Voilà, même si ce serait un peu redite, la plus grosse claque, c'est quand même effectivement le procès. Parce que, en fait, la manière dont on est jugé, donc à l'époque, on est jugé sur la loi Thévenoud qui dit que le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit. Et donc, nous, on explique qu'on ne fait pas du transport à titre onéreux parce qu'on fait du partage de frais. Et la juge donc, nous condamne et nous dit, à partir du moment où il y a un échange d'argent, même si c'est un centime d'euro, c'est du transport à titre onéreux, donc ce que tu fais est illégal. Et là, elle nous met 600 000 euros d'amende. Et donc souvent, la question que les gens posent, c'est « Ok, mais du coup, du covoiturage, c'était pareil. » Et donc là, on t'explique « Ouais, mais personne ne les a attaqués. » Et entre-temps, donc, il y a une nouvelle loi qui sort, donc toute fin 2016, et qui dit que le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit à l'exception du covoiturage. Et donc, il y a une définition du covoiturage pour sauver Blablacar. Et en fait, moi, je me retrouve au procès où tu as vraiment le sentiment de toi avoir joué avec les règles. Parce que, honnêtement, penser que ça allait se passer comme ça. Enfin, moi, je faisais du partage de frais, etc. Et où derrière, donc, tu es condamné à 600 000 euros d'amende et où tu te dis, bon, ça va peut-être tuer la boîte. Bon, à la limite, OK, voilà. En plus, on n'avait que des jeunes. Ils auraient
là, il y a un risque pour l'entrepreneur individu.
Alors, nous, on avait des petites amendes. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, ouais, sur du pénal, t'es caution solidaire, grosso modo, des amendes. Donc, si on n'avait pas eu assez d'argent sur le compte. Mais je pense qu'elle avait calculé son coût parce que quand on la voit, donc, on avait levé 1 million d'euros en deux fois. C'était pas le même monde à l'époque, les startups. Et donc, on avait 800 000 euros encore sur le compte. Elle nous le demande. Et elle nous met 600 000 euros d'amende plus tard. Donc, je pense qu'elle s'est dit, OK, comme ça, je leur laisse un peu au cas où ils ont quelques factures en rab. Et voilà. Elle n'a pas voulu nous tuer, quoi. Enfin, à titre
perso,
mais à titre professionnel, oui. Et du coup, derrière, tu te tapes. Mais moi, le nombre de fois où je me suis pris des débats avec des chauffeurs VTC, etc., où on te dit, non, mais toi, tu as un repris de justice. Parce que c'est vrai. En vrai, j'ai été condamné sur du pénal. Et en fait, on te dit, en gros, t'es un bandit, quoi. T'as voulu frauder et vraiment, t'as cette réputation-là d'être un bandit. Et pendant longtemps, Hitch a été considéré comme le vilain petit canard de la French Tech. Hein. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour nous. Il y en a beaucoup qui nous descendaient aussi. Et t'es là, tu te dis, putain, c'est quand même injuste, quoi. Et donc, ça fait quand même, ça forge un peu, ouais. Ça fait une belle claque, ouais. Parce que derrière, j'ai du mal à croire. C'est con, hein, mais j'ai eu du mal à croire en la justice. Il y a un côté où tu sens une injustice, donc tu te dis, je crois plus trop en la justice.
T'es dit, quand on est le vilain petit canard, quand on est attaqué même par des gens qu'on connaît pas dans cet écosystème, il y a plusieurs manières de faire. On peut se replier sur soi-même ou au contraire essayer d'aller prêcher sa parole. C'est quoi l'option que t'as choisi?
Non, ben nous, on a décidé d'aller parler au plus de monde possible pour justement gagner des soutiens. Et on en a eu petit à petit. Bah, par exemple, France Digital, que Olivier Mathieu connaît très bien. Enfin, moi, il y avait Jean-David Chamboredon qui est venu nous défendre, etc. Alors, je ne le connaissais pas. Et c'est, voilà, il y a des gens qui viennent et qui nous aident. Et ça compense largement parce qu'à la fin, tu vois, tu rencontres des gens et qui, en plus, sont là pour t'aider. Et c'est souvent des gens très intéressants et assez exceptionnels. Donc, dans l'ensemble, ça va, hein. Moi, j'ai pas été traumatisé par notre histoire, mais c'est plus le fait que voilà, l'administration, la justice, etc. Bah ouais, j'ai senti une injustice. Après, il y en a d'autres qui vont dire que c'était complètement mérité, hein. Mais du coup, moi, à titre perso, je l'ai vécu comme une injustice. Donc, quand tu sens une injustice de la justice, tu dis la justice fonctionne pas.
Alors, merci pour le partage de cette claque. On a bien compris que c'était un moment de vie. Peut-être ce sera lié ou peut-être pas, mais on aime bien aussi proposer une carte blanche complètement libre aux entrepreneurs qui passent sur notre studio. Si on te donne 3 minutes et un sujet de ton choix, eh ben ça va ressembler à ça.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Eh bien, je vais profiter de ces 2 minutes de carte blanche pour lancer un appel, parce que j'ai un projet avec des copains qui est de lancer un bar. C'est la période, là, c'est le bon moment pour faire ça. En gros, le principe est assez simple. C'est un bar tout à fait classique, assez sympa, plutôt dans l'Est parisien, etc. Sauf qu'à l'intérieur du bar, il y aura une cabine de commentateurs. Parce qu'on veut permettre aux gens de faire comme du karaoké, mais pour les événements sportifs. Et du coup, on cherche un gérant de bar. Et le reste, on a tout. Voilà, mais il nous faut un gérant de bar. Donc, si quelqu'un veut rejoindre ce projet, vous pouvez m'envoyer un mail à teddy@zich.com. Bon, faut avoir un peu, tant qu'à faire, hein, je passe une annonce. Voilà, faut savoir gérer un bar, faut avoir un peu d'expérience là-dedans. Et faut aussi, si possible, être un peu marrant, aimer aller derrière le micro, parce qu'il faudra encourager les gens à faire ça. Mais derrière, on a plein d'idées et on va bien se marrer. Et on va peut-être faire des tests pendant l'euro, là. Donc, c'est le moment de venir et de venir rigoler avec nous. Merci à tous.
Alors Teddy, dans cette rubrique Sista, On a envie de mettre en avant aussi des entrepreneurs au féminin. On a parlé de la féminisation des chauffeurs, notamment dans le secteur des VTC, mais là, on est dans le domaine aussi des startups, des entrepreneurs. Alors, qui est-ce que tu souhaiterais mettre en avant pour qu'on puisse leur donner un coup de projecteur, leur consacrer un podcast?
Oui, j'ai proposé à Ursula de se joindre à nous, qui a créé une startup qui s'appelle Oja, qui essaye de régler le problème de la mobilité et de la rendre plus sûre à Kinshasa. Ce qui, à mon avis, Itch a eu beaucoup de problèmes, mais je pense qu'elle en aura plus. Donc, il faut lui rendre hommage.
Quelle question t'aimerais qu'on lui pose en ton nom?
On va lui poser une question peut-être un peu perso que vous m'avez posée, que j'ai trouvé, même s'il n'y avait pas une bonne réponse, j'ai trouvé intéressante. C'est qui définit peut-être un entrepreneur. À partir de quand tu penses que tu as t'es allé au bout, que tu as réussi à accomplir ce que tu voulais?
Eh bien, Solène Etienne, notre associée, lui posera cette question en ton nom. Comme on est sur les six stages, j'ai vu passer là, il y a quelques jours juste un chiffre et je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler. 3%, c'était sur le compte Insta de We Are Sista. Et on a cette rubrique, un clin d'œil à ce collectif. 3% vs 84%, c'est le pourcentage de start-up avec des équipes fondatrices 100% féminines qui ont été financées en 2020 contre les 84% de start-up avec des équipes fondatrices 100% masculines. Un commentaire sur ces chiffres, Teddy Pellerin.
Malheureusement, nous n'avons pas relevé la moyenne chez Itch. Donc on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Après, je ne pourrais pas faire une start-up que 100% féminine.
Non, ça n'y arrivera pas. La mixité, c'est bien.
Tout à fait.
Et ben voilà, je crois qu'on arrive à la fin du podcast consacré à Itch et à Teddy Pellerin. Il nous reste quand même à te remercier parce que on a pu voir ce que c'est avec toi la résilience, la capacité de s'accrocher, de pivoter, d'insister et puis même de se déployer à l'international. Donc finalement, de faire des inconvénients ou des embûches sur la route, des facteurs d'accélération et de revitalisation de la société. Donc bravo pour ça. Et merci beaucoup pour ta transparence et ta franchise.
Merci à vous.
Merci Teddy, merci Olivier. Et quant à vous, vous l'avez sûrement entendu dans de précédents épisodes, les entrepreneurs du Next 40 prennent aussi, oui, des vacances. C'est également notre cas. On se retrouve donc après une pause estivale bien méritée. On vous dit à la rentrée.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.